Lettre 210 de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. À Paris, vendredi 20 octobre 1679. Quoi ? Vous pensez m'écrire de grandes lettres sans me dire un mot de votre santé ? Je pense, ma chère enfant, que vous vous moquez de moi. Pour vous punir, je vous avertis que j'ai fait de ce silence tout le pis que j'ai pu. J'ai compris que vous aviez bien plus de mal aux jambes qu'à l'ordinaire, puisque vous ne m'en disiez rien, et qu'assurément, si vous vous fussiez un peu mieux porté, vous eussiez été pressé de me le dire. Voilà comme j'ai raisonné. Mon Dieu, que j'étais heureuse quand j'étais en repos sur votre santé, et qu'avais-je à me plaindre auprès des craintes que j'ai présentement ? Ce n'est pas qu'à moi qui suis frappée des objets et qui aime passionnément votre personne, la séparation ne soit un grand mal. Mais la circonstance de votre délicate santé est si sensible qu'elle en efface l'autre. Mandez-moi désormais l'état où vous êtes, mais avec sincérité. Je vous ai mandé tout ce que je savais pour vos jambes. Si vous ne les tenez chaudement, vous ne serez jamais soulagé. Quand je pense à ces jambes nues, 2 ou 3 heures le matin, pendant que vous écrivez, mon Dieu, ma chère, que cela est mauvais! Je verrai bien si vous avez soin de moi. Je me purgerai lundi pour l'amour de vous. Il est vrai que le mois passé, je ne pris qu'une pilule. J'admire que vous l'ayez senti. Je vous avertis que je n'ai aucun besoin de me purger. C'est à cause de cette eau et pour vous ôter de peine. Je hais bien toutes ces fièvres qui sont autour de vous. Le chevalier vous mande toutes les nouvelles. Il en sait plus que moi, quoiqu'il soit un peu incommodé de son bras et, par conséquent, assez souvent dans sa chambre. Je fus le voir hier et le bel abbé. Il me faut toujours quelques grignons. Sans cela, il me semble que je suis perdu. Vous savez comme monsieur de la Salle a acheté la charge de Tillade. C'est bien cher de donner 500 000 francs pour être subalterne de monsieur de Marcillac. J'aimerais mieux, ce me semble, les subalternes des charges de guerre. On parle fort du mariage de Bavière. Si l'on faisait des chevaliers de l'ordre, ce serait une belle affaire. Je vois bien des gens qui ne le croient pas. J'ai reçu une lettre de bien loin que je vous garde. Elle est pleine de tout ce qu'il y a au monde de plus reconnaissant et d'un tour admirable. Pour le pauvre Corbinelli, je ne sais point de cœur meilleur que le sien. Et pour son esprit, il vous plaisait autrefois. Il regarde avec respect la tendresse que j'ai pour vous. C'est un original qui lui fait connaître jusqu'où le cœur humain peut s'étendre. Il est bien loin de me conseiller de m'opposer à cette pente. Il connaît la force des conseils sur de pareils sujets. Le changement de mon amitié pour vous n'est pas un ouvrage de la philosophie ni des raisonnements humains. Je ne cherche point à me défaire de cette chère amitié, ma fille. Si, dans l'avenir, vous me traitez comme on traite une amie, votre commerce sera charmant. J'en serai comblé de joie et je marcherai dans des routes nouvelles. Si votre tempérament, peu communicatif comme vous le dites, vous empêche encore de me donner ce plaisir, je ne vous en aimerai pas moins. N'êtes-vous pas contente de ce que j'ai pour vous ? En désirez-vous davantage ? Voilà votre pis-aller. Nous parlions de vous l'autre jour, Madame de Lafayette et moi. Nous trouvâmes qu'il n'y avait au monde que Madame de Rohan et Madame de Soubise qui fussent ensemble aussi bien que nous y sommes. Et où trouverez-vous une fille qui vive avec sa mère aussi agréablement que vous faites avec moi ? Nous les parcourûmes toutes. En vérité, nous vous fîmes bien de la justice et vous auriez été contente d'entendre tout ce que nous disions. Il me paraît qu'elle a bien envie de servir Monsieur de Grignan. Elle voit bien clair à l'intérêt que j'y prends, et je suis sûre qu'elle sera alerte sur les chevaliers, et surtout le mariage se fera dans un mois, malgré l'écrevisse qui prend l'air tant qu'elle peut. Mais elle sera encore fort rouge en ce temps-là. Madame de Lafayette prend des bouillons de vipère qui lui redonnent une âme et des forces à vue d'œil. Elle croit que cela vous serait admirable. On coupe la tête et la queue à cette vipère, on l'ouvre, on l'écorche, et toujours elle remue. 1 heure, 2 heures, on la voit toujours remuer. Nous comparâmes cette quantité d'esprits si difficiles à apaiser à de vieilles passions et surtout à celles de ce quartier. Que ne leur fait-on point ? On dit des injures, des rudesses, des cruautés, des mépris, des querelles, des plaintes, des rages, et toujours elle remue, on n'en saurait voir la fin. On croit que, quand on leur arrache le cœur, c'en est fait, et qu'on n'en entendra plus parler. Point du tout, elles sont encore en vie, elles remuent encore. Je ne sais pas si cette sottise vous paraîtra comme à nous, mais nous étions en train de la trouver plaisante. On en peut faire souvent l'application. Voici des affaires qui vous viennent. Je crois que vous allez à l'ambesque. Il faut tâcher de se bien porter, de rajuster un peu les deux bouts de l'année qui sont dérangés, et les jours passeront. J'ai vu que j'en étais avare. Je les jette à la tête présentement. Je m'en retourne à Livry jusqu'après la Toussaint. J'ai encore besoin de cette solitude, je n'y veux mener personne. Je lirai, je tâcherai de songer à ma conscience. L'hiver sera encore assez long. Votre pigeon est au rocher comme un ermite, se promenant dans ses bois. Il a fort bien fait aux états. Il avait envie d'être amoureux d'une mademoiselle de la Coste. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour la trouver un bon parti, mais il n'a pu. Cette affaire a une côte rompue. Cela est joli. Il s'en va à Bodega, de là au Buron, et reviendra à Noël avec M. Darouise et M. de Coulanges. Ce dernier a fait des chansons extrêmement jolies. Mesdemoiselles, je vous les enverrai. Il y avait à Rennes une mademoiselle Descartes, propre nièce de votre père, Descartes, qui a de l'esprit comme lui. Elle fait très bien des vers. Mon fils vous parle, vous apostrophe, vous adore, ne peut plus vivre sans son pigeon. Il n'y a personne qui n'ait fût trompé. Pour moi, je crois son amitié fort bonne, pourvu qu'on la connaisse pour être tout ce qu'il en sait. Peut-on lui en demander davantage ? Adieu, ma très chère et très aimable. Je ne veux pas entreprendre de vous dire combien je vous aime. Je crois qu'à la fin, ce serait un ennui. Je fais mille amitiés à M. de Grignan, malgré son silence. J'étais ce matin avec le chevalier et M. de la Garde, toujours pied ou aile de cette famille. Mesdemoiselles, comment vous portez-vous ? Et cette fièvre, qu'est-elle devenue ? Mon cher petit marquis, il me semble que votre amitié est considérablement diminuée. Que répond-il ? Pauline, ma chère Pauline, où êtes-vous, ma chère petite ?